RCVFM, votre radio locale, en direct de Carpentras, depuis le Pôle Média, sous le Grand Chapiteau, pour la 491e édition de la Foire Saint-Siffrin, du 25 au 27 novembre.
Bonjour à tous, retour en direct sur la 491e Foire Saint-Siffrin à Carpentras. Envie d'entreprendre, édition spéciale pour les tables rondes de la Foire. Deuxième édition aujourd'hui avec l'économie numérique dans le compta, Pierre.
Et oui, merci Jean-Marc, bonjour à tous. On va parler de quelque chose qui paraît un peu surprenant parfois, parce qu'on a plutôt l'image d'un comptable naissant où tout ce qui est agriculture, viticulture est quand même une place assez importante, mais c'est aussi un endroit de France absolument magnifique, dans lequel il y a un cadre de vie particulièrement agréable, et c'est aussi un endroit où il commence à y avoir la fibre optique, où il commence à y avoir un certain nombre de moyens qui permettent aux entreprises du numérique de venir s'installer. Et il y a de plus en plus de très belles entreprises, de ce qu'on appelle un peu des pépites de l'économie numérique, qui s'installent là. J'en citerai deux. La première, c'est ERM. C'est une entreprise qui fabrique des robots, qui fabrique des systèmes didactiques pour l'éducation, des systèmes qui permettent de produire de l'énergie quand on est dans un coin complètement paumé, enfin bref. Et je citerai aussi Meca 3D, une autre entreprise qui est elle aussi dans la zone Carpentras-Sud d'ailleurs, qui fabrique des robots pour la recherche. Alors on n'a pas trop le droit de dire pour quel organisme, parce que c'est des choses qui sont vraiment très très pointues, mais des machines qui sont gigantesques. Voilà, c'est deux exemples, mais on pourrait parler aussi de Edicium, la société de Cédric Ruir, qui fabrique des systèmes de stockage. Il y a des projets très intéressants qui pourraient se dérouler sur la ZAC du Piol. Là aussi, on ne peut pas trop en dire, mais bref, il y a un gros développement de l'économie numérique sur le compte à Venessin. Pour en parler, on a invité deux personnes qui sont vraiment orientées autour du monde du logiciel, autour du monde du software, mais avec des angles complètement différents. Le premier, c'est Christophe Ferrando, qui est le créateur et le fondateur d'une société qui s'appelle Silica, qui fabrique des softs et des systèmes, des solutions logicielles pour le monde médical. Et le deuxième, c'est quelqu'un que, si vous fréquentez de temps en temps à la fois RTVFM ou aussi CNews.press, et donc maintenant au jour 8, que vous connaissez peut-être sûrement, et si vous êtes un amateur d'illustration et de fantasy encore plus, c'est Gilles Francescano, qui est le directeur de l'ESA Games, une école qui nous tient particulièrement à cœur. On va reparler tout à l'heure. Alors, je vais vous demander à tous les deux, en quelques mots, de vous présenter. Donc, Christophe.
Donc, bonjour à tous, Christophe Ferrando, donc je suis président de la société Silica. J'ai fondé la société en août 2014 sur Carpentras. Je suis hébergé dans les locaux du RIL, la pépinière d'entreprise de Carpentras depuis le début. J'ai fondé la société principalement pour créer des lecteurs de cartes à puces pour la santé. Donc avec l'envie de proposer ces lecteurs en mobilité, c'est-à-dire de proposer des lecteurs qui sont capables de s'associer à des smartphones ou des tablettes, ce qui n'existe pas encore ou c'est très très peu développé. J'ai fini par y arriver. Je viens d'avoir une homologation du GIE Sésame Vital pour le lecteur Bluetooth Bifant pour les médecins. Et ça va continuer avec Android. Alors je ne sais pas combien de temps je dois parler. Mais voilà, du coup la société est en plein essor et ça marche pas trop mal, je suis assez content.
D'accord. Gilles ?
Bonjour, moi je suis Gilles Francescano, donc je suis illustrateur pour les éditions en science-fiction, fantastique et les jeux vidéo, donc depuis 30 ans maintenant. Et depuis 4 ans, donc on a monté ce projet fou d'une école du jeu vidéo, donc au sein même de la ville de Carpentras. Et donc depuis cette rentrée, donc je suis le directeur de cette école qui a ouvert ses portes au 19 septembre avec cette nouvelle promotion, cette première promo.
Très bien, une expérience tout à fait passionnante et dont on va reparler un peu en détail, non seulement tout à l'heure, mais aussi à d'autres moments. Je vous propose qu'on commence par une première petite pause musicale et puis ensuite on commencera à rentrer un peu dans la description de la société Silica.
What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? There might have been a time when I would keep myself away. Oh, once upon a time, I didn't give a damn. But now, here we are. So what do you want from me? What do you want from me? Just don't give in. See, the pity of your control, and nothing wrong with you. Nothing wrong with you. It's real, I'm free. But thanks for loving me, 'cause you're doing perfectly. There might have been a time when I would let you slip away. I wouldn't even try, but I think you could save my life. Down.
FM, votre radio locale en direct de Carpentras depuis le pôle média sous le grand chapiteau pour la 491e édition de la foire Saint-Siffrin du 25 au 27 novembre.
Eh bien voilà, retour donc pour cette table ronde sur l'économie numérique dans le comptable Nessin. Et donc on va commencer avec la présentation de la société Silica par celui qui l'a créée, Christophe Ferrando. Christophe, alors comment on en vient à, qu'est-ce que vous faisiez avant de créer Silica et comment on en vient à créer une société pareille?
Alors pendant 17 ans, j'ai bossé dans une entreprise en fait qui fait des logiciels, qui fait toujours des logiciels pour les infirmières libérales, donc la santé toujours. Et au bout de quelques années, je cherchais des solutions pour l'entreprise en fait qui permettaient de connecter des smartphones et aider les infirmières en mobilité en fait. C'est une clientèle qui se déplace beaucoup en fait, c'est probablement la profession qui se déplace le plus au chevet des patients. Et il n'y avait pas de solution pour utiliser des smartphones en mobilité ou des tablettes, etc. La réglementation a évolué, etc. Donc pour faire simple, on est capable aujourd'hui, avec des solutions qui coûtent moins cher techniquement, on est capable de réaliser donc des lecteurs sans fil, ce que fait la société, qui peuvent être connectés à des smartphones. Alors j'ai démarré donc en août 2014, j'ai commencé à rencontrer le GIE Sésame Vital, donc l'organisme qui fabrique les cartes vitales en France, pour voir comment on pouvait développer ce type de solution Et après, en réfléchissant, en travaillant, en gardant toujours à l'esprit que ce que je voulais faire, ce soit le plus simple possible pour l'éditeur de logiciel au bout du bout qui va utiliser ma solution. Voilà, j'ai travaillé sur ce projet. J'ai commencé par faire des lecteurs connectés avec des fils, bêtement, pour commencer à acquérir un peu d'expérience là-dessus. Parce que moi, mon domaine, c'est le logiciel et pas le matériel. Je travaille avec une société de Goult, pas très loin, donc toujours dans le Vaucluse, qui s'appelle Sengal et qui est spécialisée dans l'électronique. Donc à deux, en fait, avec ce partenariat, on a pu développer, des solutions à la fois soft et à la fois hard basées sur l'électronique. Alors là où on a utilisé énormément tout ce qui est nouvelle technologie, on va dire, c'est par exemple sur la création des coques, on utilise des imprimantes 3D qui nous permettent de prototyper très rapidement le design qu'on veut réaliser. Là, on est en phase de pré-série sur certains lecteurs. On investit dans des imprimantes un peu plus chères, on va dire un peu plus pro, et ça nous permet de fabriquer à la demande presque des lecteurs pour nos clients et en tout cas pour les phases de pré-série.
D'accord. Ok. Alors, comment donc vous êtes installé au RIL, qu'est-ce que le RIL a pu vous apporter? Est-ce que vous avez trouvé d'autres soutiens, d'autres partenariats au niveau local?
Oui, alors donc j'ai démarré par une journée porte ouverte au RIL. Alors j'avais vraiment la volonté de créer l'entreprise, de créer une entreprise en fait, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je suis allé à la journée porte ouverte du RIL qui hébergeait des entreprises que je connaissais déjà par mon travail. J'avais déjà rencontré certains des créateurs qui étaient là. Et ça a très très vite enchaîné. Donc il y avait ce jour-là des partenaires du RIL, notamment la Société Générale, qui est devenue ma banque d'affaires, ma banque pro, et avec qui j'entretiens toujours de très très bonnes relations. J'ai donc au RIL, il y avait un bureau qui s'est libéré et je me suis dit plutôt que de travailler à la maison, ça serait sympa de travailler au milieu d'autres entrepreneurs. Et j'ai pu donc postuler et maintenant je suis hébergé par le RIL. Et en parallèle, il y a une autre structure sur Carpentras qui s'appelle Initiative Ventoux, qui m'a accompagné au début quand j'ai créé l'entreprise et qui m'a octroyé un prêt d'honneur en fait. Donc ce prêt d'honneur, plus un prêt de la Société Générale, plus l'appui du RIL pour monter les dossiers, fait que l'entreprise a pu s'installer et démarrer correctement. Ensuite, dans la durée, ce que le RIL m'a apporté, c'est de me mettre en relation avec des institutions comme la BPI ou l'INPI. Alors, dans mon domaine, on est quand même sur de l'innovation, donc j'ai besoin de protéger mes inventions, entre guillemets.
Alors, on va juste préciser que la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, et l'INPI, c'est tout ce qui protège un peu les droits d'invention, en quelque sorte.
Tout à fait, voilà. L'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Si vous avez à déposer un brevet, il faut passer par eux. Alors, on est quand même dans un beau pays puisque quand vous démarrez comme ça, vous pouvez avoir des aides, par exemple, pour faire une espèce de diagnostic de votre entreprise qui s'appelle un pré-diagnostic, donc que l'INPI vous fournit gracieusement. Vous avez quelqu'un qui vient et qui étudie un peu ce que vous faites et qui vous dit comment vous pouvez avancer en fait concrètement. Donc j'ai pu bénéficier de cet accompagnement grâce au RIL qui m'a mis en relation avec l'INPI. On a enchaîné avec un dépôt de brevet. Donc pareil, il y a des subventions de la région pour ça. Donc on est aidé à hauteur de 50 ou 70%, c'est assez important. Un brevet, ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros, donc c'est quand même valorisant d'avoir ces aides-là. Ensuite, dans la foulée, la BPI peut fournir des subventions carrément aux entreprises si vous rentrez dans le cadre de certains programmes. Donc toujours grâce à la mise en relation du RIL avec la BPI, j'ai pu bénéficier d'une subvention qui est de l'ordre de 29 000 euros quand même, c'est pas négligeable. Ça m'a permis de développer le lecteur en fait. C'est très cadré, on doit évidemment suivre les règles et suivre les lignes. Mais si votre projet est bien monté, vous pouvez avancer rapidement. Donc j'ai pu avoir cette subvention en début d'année. Et finalement, on se rend compte qu'en fin d'année, le produit est terminé, il est homologué. Donc il y avait une vraie volonté de Silica de développer le produit. Et l'appui de la BPI, pour le coup, a été très 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 important.
D'accord. On reparlera dans la troisième partie de cette émission de l'importance effectivement du travail en collaboration, du travail collaboratif et du travail en réseau. Après la pause musicale, on écoutera la présentation que Gilles Francescano va nous faire de l'ESA Games.
Retrouvez les plus grands succès sur RTBFM. Thank you.
Professionnel, vous avez des besoins en secrétariat, en informatique et en communication. Site internet, reportage vidéo et photo, catalogue et plaquettes commerciales, Avance Entreprise, société installée au marché Gare à Carpentras, a les réponses à vos attentes. Avance Entreprise, 1257 Avenue des Marchés à Carpentras. Téléphone 09 86 27 42 44. Avance Entreprise, l'artisan de vos services tertiaires.
RTVFM, votre radio locale, en direct de Carpentras, depuis le Pôle Média, sous le Grand Chapiteau, pour la 491e édition de la Foire Saint-Siffrin, du 25 au 27 novembre.
Et nous voilà à nouveau sur cette table ronde sur l'économie numérique dans le comptable Nessin. Après donc la société Silica de Christophe Ferrando, nous allons donc maintenant partir à la découverte de l'ESA Games, la formidable école d'art numérique et autour du jeu de vidéo qui a été créée par Gilles Francescano. Et je vais le laisser lui-même nous raconter un peu l'histoire de ce projet un peu fou.
Merci Pierre, au moins formidable effectivement. Alors ce projet un peu fou, effectivement, c'est un sacré pari. Le pari, c'était donc d'ouvrir une école donc consacrée aux jeux vidéo à Carpentras, être certain qu'il y aurait un public pour cela, trouver des élèves. Et donc c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans. Comme tous les beaux projets, c'est juste une rencontre en fait. J'étais invité moi sur le salon, un petit salon littéraire qui s'appelait Questuli dans le centre de Carpentras, et ça m'a permis déjà de découvrir cette ville. Alors au tout début de l'émission, tu parlais de la chaleur et de la vie ici. Effectivement, en une semaine, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'étrange quand même dans cette ville, parce que déjà sur l'accueil des personnes qui m'avaient invité, et puis le fait que pendant en une semaine, j'avais croisé 4 fois monsieur le maire, toujours disponible, toujours souriant, toujours prêt à discuter. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étrange, parce que c'est pas une toute petite ville non plus. Et au gré d'une discussion, en fait, je lui ai expliqué moi ce que je faisais. J'avais un projet donc d'école que j'essayais de placer depuis quelques années, et Francis Adolphe et son équipe super efficace ont rebondi sur le projet, et on a travaillé assez dur pendant 4 ans avec des hauts, des bas, des déceptions, des combats, des victoires pour ouvrir donc cette année au 19 septembre.
D'accord. Donc il y a combien d'élèves dans cette première promo ?
Alors sur cette première promo, donc on a une jauge maximum de 20 élèves et là on est à 18. Donc pour nous, sur cette première année, c'est un pari gagné. C'était pas tout à fait évident parce qu'il fallait convaincre, parce que les familles, c'est un pari fou pour elles, hein, parce que toute l'équipe, on n'a aucun antécédent dans la région, il fallait montrer patte blanche. Et donc on a effectivement 18 élèves qui nous ont fait confiance et en qui on fait confiance aussi, puisque le pari fou, c'est de les amener à travailler en 3 ans dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils connaissaient juste en tant que consommateurs, parce que le fil rouge j'espère que vous l'aurez compris, c'est la motivation et la passion concernant le jeu vidéo.
Oui, on va y revenir.
Et
ouais,
effectivement, ouais. Cette passion les amène à travailler là aujourd'hui sur une amplitude horaire de 34h30 par semaine de cours, plus des travaux à réaliser à l'extérieur. Et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on enseigne justement à l'ESA Games?
Alors, on enseigne au départ les deux axes principaux qui amènent au domaine du jeu vidéo. Le terme de jeu vidéo, c'est un terme générique, disons, pour résumer un petit peu ce que l'on fait à l'école. Mais donc, ils vont avoir deux branches principales, qui est le game design et le game art. Et au sein de ces deux branches, en fait, ils ont en premier un fort apprentissage de tous les logiciels importants pour ce type de métier. Et donc, ça les amène à faire de l'animation, à faire du film, à faire du dessin, et leur même en dessin sur les premières années. Et aussi, donc, en termes de game design, apprendre les logiciels, disons, de codage en vogue dans le jeu vidéo, comme Unity, comme des choses comme ça, et travailler en 3D, par exemple, donc conception 3D d'objets, conception 3D de personnages, pouvoir vectoriser, animer tout ça, pour pouvoir réaliser un projet donc au bout de ces 3 ans.
Alors, vous disiez tout à l'heure que les enseignants n'avaient pas d'antécédents dans la région. Par contre, ils ont tous été enseignants. Vous étiez, je crois, dans une école en Suisse, entre autres. Vous êtes tous à déjà un parcours
voilà,
de formateur et un parcours professionnel aussi.
Oui, mais bien entendu. Et moi, c'était important. En fait, le pari fou, c'était déjà le fait d'ouvrir effectivement une école axée sur un métier. Et donc, on avait vraiment envie d'être ancré dans le réel quotidiennement. Et donc, avoir effectivement des professionnels en termes d'enseignants, donc des professionnels qui se rendent disponibles pour enseigner leur pédagogie et à travers leur pédagogie pour enseigner leur passion de ce métier. Et donc effectivement, ce sont tous des enseignants qui travaillent, hein, qui sont encore actifs dans le métier du jeu vidéo ou de l'animation ou du game design et qui enseignent ailleurs effectivement. Donc là, moi, forcément, je les ai un petit peu débauchés de certaines autres écoles, mais au début, c'était les convaincre de venir travailler avec nous. Et puis après, ils se sont pris au jeu parce qu'ils ont compris qu'il y avait une philosophie différente à l'ESA Games à Carpentras et qu'ils avaient envie d'essayer sur ce nouveau terrain de jeu, j'irais tout neuf, où un nouveau modèle est à inventer. Et j'ai bien l'impression qu'il est en train de prendre corps. Et c'est presque, on en parlait récemment, c'est presque une utopie en fait qui nous dépasse aujourd'hui parce qu'on a vu effectivement le public que ça touchait. On a été aussi surpris par les élèves qui étaient intéressés et de la manière dont ils se sont emparés eux-mêmes du projet en fait. Donc c'est vrai que j'ai plus l'impression d'être c'est une grande famille aujourd'hui sur cette première promo et ça fait chaud au cœur de les voir tous les jours s'acharner disons dans les cours, se passionner, sortir ensemble aussi voilà à l'extérieur, avoir une ambiance que je ne trouvais pas dans les autres écoles.
Alors c'est vrai que quand on se rend à l'ESA Games, je vous rappelle que vous allez pouvoir voir des sujets vidéo à la fois sur CNews et sur Jour 8 sur l'ESA Games qui vous permettront de voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Mais quand on va à l'intérieur, on se rend compte que c'est vraiment, j'allais dire, pour rester dans l'ambiance de l'économie numérique, une école au minimum 2.0, peut-être même 3.0. Quoi. C'est-à-dire que sur deux choses, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est effectivement ce choix que vous avez fait et qui est le choix d'une autre école un peu connue au niveau national, fondée par un grand nom de la téléphonie. C'est de partir sur pas de niveau de diplôme, mais la motivation.
Voilà, alors effectivement, c'est une très belle référence. Merci de la comparaison, même si on n'a malheureusement pas les mêmes moyens.
Pas maintenant, mais ça va venir.
Effectivement, c'est un métier. Je crois que les directeurs d'écoles nationales qui s'intéressent aux jeux vidéo depuis quelques années ont juste oublié quelque chose, c'est que tous les acteurs du jeu vidéo qui ont fait le jeu vidéo que l'on connaît au niveau mondial n'ont jamais fait d'école. Parce que il n'y avait pas d'école à l'époque et aujourd'hui les trentenaires ou les quinquas qui travaillent dans le jeu vidéo ne sont pas sortis d'école du jeu vidéo. Donc je trouvais que il y avait une espèce de barrière élitiste et puis a fortiori encore en France forcément avec le côté administratif et puis un peu rigoureux sur l'image de l'école que l'on a en France, il y avait un aspect élitiste et forcément un peu discriminant par rapport à exiger un un niveau, disons, de diplôme à l'entrée, alors qu'il suffit d'une passion. Et c'est ce que on s'est rendu compte de ça, parce que quand on voit les profils des élèves que l'on a à l'école, effectivement, ils ont tous eu des parcours très différents, et c'est un enrichissement permanent, parce qu'ils ont, ce sont des personnes qui n'étaient censées ne jamais se côtoyer dans la vie. Et c'est ça qui, moi, me fascine tous les jours, c'est que il y a des gamins qui ont fait des facs informatiques, qui ont eu un cursus, je dirais, à peu près classique, et d'autres qui sont issus de CAP, de BEP, qui ont eu des fractures de vie aussi, qui les ont amenés à peut-être être déscolarisés pendant plusieurs années. Et quand je les vois ensemble, c'est un groupe homogène, uni, qui a trouvé toute une pléthore, je dirais, de sujets en commun, et qui sont là pour s'entraider, parce que ils ont bien compris que s'il y en avait un qui était en retard dans le groupe, en fait, on allait tous être en retard, donc ils passent leur temps à s'entraider, à s'écouter, à se parler, à se convaincre de se motiver aussi, parce que c'est pas facile tous les jours, et il y a une espèce d'alchimie qui nous dépasse aujourd'hui, oui, dans l'école.
Et j'ai assisté à un échange justement quand j'étais venu la dernière fois où j'ai eu vraiment la démonstration de cet intérêt qu'ils avaient pour les autres. Ils n'étaient pas complètement auto-centrés comme on peut assez facilement l'être à un certain âge.
Voilà, c'est une compétition, mais on y va tous en se tenant la main, quoi, et on va tous la franchir, la ligne d'arrivée ensemble, parce que sinon c'est un échec pour l'école. C'est moi, c'est pas tout à fait. Enfin, j'avais pas du tout envie de reproduire la compétition que l'on voit sur certains autres. Je dirais de cursus où la compétition devient un enjeu de communication. La compétition, elle arrive bien assez tôt dans la vie, elle les attend dès leur sortie de l'école. Et j'avais envie de leur montrer qu'on pouvait essayer de créer un autre modèle et puis travailler ensemble d'une autre manière.
Alors c'est justement la deuxième dimension qui fait que je parle moi d'école de 3.0. C'est une utopie certes, mais c'est une utopie réaliste parce que dans le programme, dans la manière de travailler, dans les intervenants, il y a un gros travail sur leur apprendre aussi ce que va être leur métier concrètement, ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que, etc. C'est aussi une dimension que vous prenez en compte dans cet enseignement, dans tout le programme d'enseignement sur 3 ans.
Alors, effectivement, je parlais des enseignants qui sont tous des professionnels. Il y a aussi des intervenants que l'on sollicite au gré des rencontres ou sur le programme qui est établi. Des intervenants professionnels qui viennent soit du secteur du jeu vidéo ou de l'entreprise, effectivement. L'aspect entreprise, moi, m'intéresse particulièrement par rapport à cette région, puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. On touche assez facilement du doigt, je dirais, quelles pourraient être les lacunes ou qu'est-ce que l'on pourrait apporter de l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de venir, entre guillemets, piquer la place de quelqu'un, c'est apporter mon savoir, apporter un carnet d'adresses, apporter un savoir-faire professionnel que j'ai développé pendant 30 ans au gré des rencontres et de mes activités, et de les amener ici. Et l'enjeu de l'école, en fait, c'est effectivement montrer, alors parce que tous les élèves sont forcément comme tous les consommateurs de jeux vidéo. Si on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, je veux faire du jeu vidéo, et en deuxième temps, qu'est-ce que tu veux ensuite, quelle boîte tu veux aller solliciter, je veux rentrer chez Ubisoft ou dans des grands groupes comme ça. Aujourd'hui, avec la multiplication des supports, on leur explique qu'ils peuvent développer un jeu, ils peuvent développer une application, ils peuvent monter un studio à 2-3 au gré des rencontres et s'établir ici. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de les convaincre. Effectivement, on a des élèves qui viennent d'ailleurs, on a des élèves de Mâcon, de Montélimar. C'est leur montrer que la ville est accueillante, que la région est accueillante, qu'il y a une infrastructure au gré des sociétés que l'on rencontre qui est prête à les accueillir, à aussi faire ce pari fou, parce que c'est vrai que quand on voit le CV de certains de ces élèves, on se dit que non, ils vont dans le mur. Mais si on parle un quart d'heure avec eux, on a envie de les aider, on a envie de les solliciter, on a envie de les accueillir au sein d'une entreprise pour voir un petit peu ce dont ils sont capables. Et ce pari fou, c'est de les amener justement à travailler dans la région.
Ok, je confirme effectivement. On va faire une petite pause musicale.
Folie à cage, fête. Le jour se lève, on se débriefe la soirée de la veille. Dans un after, sur les bords de Seine.
La folie arcade.
Une jam, un concert, trois festivals. On met le son, les basses à fond, Arcadian original. Au son de nos voix qui se mélangent, c'est pas banal.
Est-ce que tu ressens les pulsations? Tap, tap sur la caisse, fait résonner le son. Est-ce que tu sens monter la pression?
FM, votre radio locale en direct de Carpentras depuis le pôle média sous le grand chapiteau pour la 491e édition de la foire Saint-Siffrin du 25 au 27 novembre.
Retour donc sur ce table ronde sur l'économie numérique, donc avec Christophe Silica, patron de la société Silica. Christophe Ferrando, patron de la société Silica. Ça commence avec deux jours de foire, je ne sais pas ce que ça va être demain. Et Gilles Francescano, fondateur et directeur de l'ESA Games. Là, je ne me suis pas trompé, je ne t'ai pas appelé Gilles Games. On va parler maintenant, vous avez présenté vos deux très très beaux projets. On va parler un peu maintenant de l'impact que ces projets et de l'impact que l'économie numérique peut avoir sur un petit territoire, mine de rien, comme le Comtat-Venaissin. C'est vrai que nous, sur Acom Avance Entreprise, c'est forcément l'économie numérique, c'est des choses qui nous intéressent parce qu'on s'y inscrit en plein, parce que voilà, on a un web média, on a même deux web médias, un qui est sur le monde économique qui est Jour 8, et puis un autre ce qui est plus généraliste, culturel, qui est CNews.press. Donc on est très attaché à ça. Une des particularités quand même de l'économie numérique, c'est qu'elle s'appuie beaucoup sur le travail en réseau, sur la collaboration, sur aussi des choses comme le travail à distance, le fait de pouvoir bosser de chez soi pour des clients qui sont en Australie. Voilà. Christophe Ferrando, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, j'allais dire, inscrit dans vos gènes à vous et dans les gènes de votre société, et aussi dans les pratiques qui se font au RIL avec l'espace coworking ou des choses de ce genre.
Oui, alors tout à fait. Donc moi, je vois vraiment cette économie numérique comme de la relocalisation, en fait. Donc, ouais, parce que finalement, on fait des études, etc. Donc la voie normale, c'est d'aller chercher du boulot dans les grandes villes et compagnie. Alors que finalement, aujourd'hui, on peut très bien relocaliser son emploi et à partir d'une ville comme Carpentras, où personnellement, je suis né, j'ai fait toutes mes études, on peut continuer à avancer et à s'épanouir professionnellement tout en gardant une qualité de vie assez exceptionnelle, je dois dire.
Parce que vous, vos clients, c'est les grands éditeurs de logiciels, ils sont pas forcément à Carpentras, j'imagine.
Non, tout à fait. Donc j'ai des clients dans toute la France. Sur certains logiciels, je diffuse. Mais l'avantage, c'est que les gens vont télécharger mon produit de n'importe où. Là, vous allez sur mon site web, vous achetez en direct un logiciel pour assureur et vous le téléchargez. Donc pas besoin de se déplacer. Et après, effectivement, bon, on coupe pas la rencontre physique de temps en temps avec des réunions. Mais on peut aujourd'hui tout faire à distance, on a des outils fabuleux. Après, même si on va plus loin, maintenant on a des casques 3D, on pourrait très bien s'imaginer tous les quatre aux quatre coins de la France.
Absolument,
et
absolument.
Se retrouver autour de la même table en ayant l'impression de pouvoir se toucher, quoi. Donc il y a vraiment des possibilités avec le numérique qui n'existaient pas avant. Après, on reste quand même. Moi, je suis quand même ancré à l'humain, quoi. J'ai besoin d'avoir du contact physique avec les gens. Hein. Donc, c'est vrai que l'avantage de la pépinière, notamment, c'est que si on a un sujet à aborder avec un entrepreneur, on va le voir, on discute. voilà, l'humain quand même enfin, reste important et ça reste au-dessus de tout. Maintenant, voilà, le numérique apporte vraiment cette possibilité. On pourrait créer une espèce de grande baraque à Carpentras où on met 40 entreprises avec 40 bureaux et puis voilà, on pourrait tous travailler ensemble sans problème à mon avis.
Ouais, tout à fait. Le travail à distance dans les métiers de l'illustration et dans les métiers du jeu vidéo, j'imagine que c'est une pratique aussi qui est déjà largement inscrite dans les gènes de la pratique. En tant qu'illustrateur, avant même les AGames, j'imagine que vous travaillez pour des éditeurs qui sont un peu partout en France, et même je crois que vous travaillez aussi pour des éditeurs à l'étranger.
Ah, c'est sûr que l'apport du numérique a changé les pratiques. Sans parler de mon âge, effectivement, moi je suis quand même un dinosaure qui a quand même connu l'arrivée de l'ordinateur. Donc, effectivement, avant j'envoyais un original par la poste ou par avion même, et aujourd'hui c'est par mail, et donc c'est beaucoup moins onéreux et beaucoup plus rapide. Et effectivement, c'est des outils qui sont presque contradictoires, même dans l'esprit, je dirais, entre guillemets, du grand public, parce qu'on a l'impression d'avoir été isolé en fait, hein, par l'ordinateur individuel, alors qu'en fait il y a une interactivité, une interaction beaucoup plus rapide avec les autres interlocuteurs. Et donc ça, au contraire, ça a développé un réseau. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez par rapport au réseau au niveau entreprise et autres. Nous, je dirais aussi, le but de notre discours au sein de l'école, c'est d'amener les joueurs qui étaient ces élèves, en fait, qui étaient donc isolés derrière leur machine, même s'ils jouent en réseau, des choses comme ça, c'est les amener à comprendre que c'est un métier qui va forcément nécessiter du réseau et de l'interaction ici, dans le bassin de la population locale, en fait, avec les entreprises, avec le RIL, par exemple, avec le regroupement, tout ça, pour les amener à s'intéresser à cette région.
Il y a une vraie culture de l'altérité, il y a une vraie curiosité pour les autres dans l'économie numérique, parce qu'on peut être amené à discuter très facilement avec un Australien, avec etc. On est forcément dans un voisinage complètement différent, j'allais dire, en quelque sorte. Sur ces les retombées en quelque sorte et les échanges qui peuvent se créer, Christophe Ferrando, vous travaillez déjà avec d'autres sociétés sur le territoire du Comtat, ou est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires un peu partout? Comment ça se passe au niveau des collaborations?
Alors c'est marrant parce que je pensais à un exemple. Je travaille avec une société de Carpentras qui s'appelle Mock Adventure, qui est spécialisée dans tout ce qui est application sur smartphone notamment, et avec qui on a bossé sur pas mal de sujets. Et finalement, je me rends compte qu'on se voit pas souvent, ouais, physiquement.
Alors qu'elle est à Carpentras.
Alors qu'on est on doit être à 3 km l'un de l'autre. Mais on fait tout du coup par Slack, enfin, etc., par des messageries instantanées ou tout un tas d'outils qui existent. On a des dépôts communs pour tout ce qui est logiciel. Enfin, je vais pas rentrer dans la technique, mais on peut échanger très très facilement et sans se rencontrer. Voilà, tout ce qu'on fait. Après, oui, j'ai des partenaires de partout. J'ai un partenaire au Futuroscope qui s'appelle Icanopé, qui développe tout ce qui est accès au DMP, donc le dossier médical personnel. Oui. Donc c'est pareil, je voudrais amener, et lui c'est sa volonté d'amener ça en mobilité, de permettre à des urgentistes ou à des gens qui ont des professionnels de santé qui ont besoin de mobilité, d'accéder à vos données médicales en toute sécurité, donc basées sur mon lecteur pour la partie sécurité. Voilà, après j'ai d'autres partenaires, des éditeurs de logiciels un peu de partout, oui, effectivement. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer, quoi. On peut tout faire en restant à Carpentras.
Ouais.
Et ça, c'est fabuleux.
Ouais, tout à fait. Gilles Francescano, donc tous ces élèves qui vont sortir de l'ESA Games donc dans 3 ans, puisqu'une promo dure 3 ans, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement vous les sensibilisiez au fait de créer, pas forcément rentrer chez Ubisoft, mais aussi de créer leur propre entreprise, etc. Ça veut dire qu'une école comme l'ESA Games peut être aussi un potentiel de développement de l'économie locale avec la création de nouvelles entreprises, etc.
On espère, c'était la deuxième intention de départ, c'était réellement ça, et c'était vraiment inscrit dans nos gènes de création de l'école. C'était vraiment faire rentrer les élèves, déjà, le premier pari, et ensuite les faire sortir et si possible les faire rester sur le territoire, bien sûr. On a beaucoup de questions là-dessus par rapport aux familles, justement, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai rencontré moi beaucoup de personnes qui étaient nées à Carpentras et qui ont envie de vivre à Carpentras, et ouais, ça c'est pas courant en fait, hein, c'est quand même pas courant dans toutes les villes que la ville natale ne soit pas rejetée. Et donc, dans les familles qui nous ont confié entre guillemets leurs étudiants, enfin leurs jeunes en tous les cas, il y a ce fort désir en fait de savoir est-ce que mon gamin à la sortie de l'école sera obligé de s'expatrier ou pas. Et donc ça c'est aussi un pari et un petit coup de pied ou coup de coude lancé un peu aux politiques locaux, parce qu'effectivement il faut développer ce tissu social pour que les jeunes restent ici et le numérique est pourvoyeur de professionnalisation, de métier, de carrière à distance. Donc effectivement l'idée c'est qu'ils puissent s'établir à Carpentras et faire comme notre collègue ici présent, vendre leurs produits en France et à l'étranger.
Est-ce qu'il va y avoir pendant le parcours, pendant les 3 ans de ces promos, est-ce qu'elles vont être amenées à travailler sur des situations pratiques avec des entreprises locales? Est-ce que vous allez développer un certain nombre de choses de genre?
Alors nous, effectivement, on est en forte demande là-dessus. Donc c'est un appel lancé à toutes les entreprises locales, effectivement, pour déjà avoir un réseau d'accueil pour des stages en entreprise, ouais, que l'on a décidé de maintenir dès la deuxième année, en fait, qui ne soit pas qu'un stage d'observation, qui soit quand même un stage de réelle collaboration. Et le stage de troisième année, lui, est de 4 à 6 mois. Donc là, il faut effectivement qu'on s'appuie sur un fort réseau qui est déjà tissé au sein des sociétés de jeux vidéo avec lesquelles nous sommes en contact. Mais d'accord, on aimerait bien que ce soit aussi dans du local.
Ouais.
Et puis, entre-temps, effectivement, faire réaliser par nos élèves, en fait, des commandes d'entreprises extérieures pour qu'ils puissent travailler sur des sujets vraiment ancrés dans la réalité et qu'ils puissent avoir le bénéfice ô combien valorisant de voir leur exercice utilisé d'une manière professionnelle, que ce soit une plaquette de promotion, que ce soit un film d'animation, un teaser pour un produit, des choses comme ça. Là on a un travail de jeu nous, qui commence dès la première année et qui sera donc livré au mois de juin si tout se passe bien, et on espère que ce sera valorisant pour les jeunes, parce qu'ils pourront dire moi dans mon cursus j'ai réalisé un jeu, j'ai participé d'une manière active à ce jeu-là, et c'est pas une simple démonstration je dirais pédagogique, c'est un jeu qui est utilisé d'une manière professionnelle.
Alors j'entendais tout à l'heure justement pendant une des pauses musicales que vous évoquiez la possibilité de faire des choses ensemble justement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce dont vous avez discuté vaguement?
Oui, écoutez, alors sans parler forcément de jeux vidéo, mais on est dans tout un univers graphique qui peut être utile à l'entreprise. Moi, je pense surtout à des besoins en termes de communication. Aujourd'hui, si par exemple vous montrez un produit, on va le filmer et on va faire quelque chose de classique avec une caméra. On peut très bien le faire illustrer par une école comme les A-Games. On peut avoir quelque chose de super sympa et super dynamique, à mon avis, et avoir un rendu plus professionnel encore que ce qu'on peut faire nous. Donc après, on peut imaginer des jeux. Enfin, là, je suis plus dans le serious game, mais je sais pas si c'est le domaine de l'école, mais a priori, je pense que oui. On peut très bien imaginer des jeux qui sont à destination de faire la promotion de nos produits. Enfin, on peut tout imaginer. À partir du moment où on travaille, de toute façon, à partir du moment où on travaille dans le numérique et si on a envie de faire des choses un peu décalées, à mon avis, il y avait vraiment moyen de faire des choses sympas.
D'accord.
Le vivier de nos élèves, encadré par exemple Fred Conil et Carl Feiton, ouais, je dirais un petit peu les deux profs qui correspondent aux deux axes de l'école, en fait, vous avez à disposition 18 univers, je dirais, prêts à fournir effectivement toute leur créativité.
Ouais. D'accord. Parce que ça peut intéresser toutes les. Quand même, le stage, quels sont les types de sociétés en dehors des salles du jeu de vidéo qui peuvent être intéressées par des stagiaires qui viennent de l'ESA Games?
Ah ben disons, ça peut. Alors, ça, c'est quand même assez effectivement variable et très varié. C'est autant, effectivement, comme vous disiez, en communication, une agence de pub qui a besoin effectivement d'un bon coup de crayon, ne serait-ce que ça. Un concepteur 3D qui a besoin de créer un objet. Un musée qui a besoin de faire visiter une crypte qui n'est plus visitable, par exemple, et donc numériser cet espace-là.
Les architectes,
un architecte,
par exemple,
ouais, qui ouais. a besoin de présenter une maison, un projet en 3D, des choses comme ça. Donc,
ouais,
effectivement, en termes de local, il y a de quoi trouver, mais effectivement, il faut effectivement inviter les sociétés à ne pas hésiter à contacter l'école, à visiter le site, à peut-être venir nous visiter lors des journées portes ouvertes en 2017, parce que comme le projet de l'école est né de cette belle rencontre, eh ben, tous les autres projets devraient naître de la même manière.
D'accord, ok, très bien. Bien, on va faire une dernière pause musicale, après quoi on parlera de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir encore plus développer l'économie du numérique dans le compta.
Vous êtes professionnel ? Vous avez des besoins en secrétariat, en informatique et en communication ? Site internet, reportage vidéo et photo, catalogue et plaquettes commerciales, Avance Entreprise, société installée au marché Gare à Carpentras, a les réponses à vos attentes. Avance Entreprise, 1257 avenue des Marchés à Carpentras. Téléphone 09 86 27 42 44. Avance Entreprise, l'artisan de vos services tertiaires.
RTVFM, l'esprit jeune. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Oh,
I've been waiting for that. Stop, hold up, swing your back.
See, anybody could be bad to you. You need a good girl to blow your mind. Yeah.
Bang, bang into the room. I know you want it. Bang, bang all over you.
I'll let you have it.
FM, votre radio locale en direct de Carpentras depuis le pôle média sous le grand chapiteau pour la 491e édition de la foire Saint-Siffrin du 25 au 27 novembre.
Et ben voilà, retour donc pour la dernière partie de cette table ronde sur l'économie numérique, agrémentée par la présence d'une espèce de troupe fanfare amenée par le cirque Salto Banco. C'est vraiment très sympathique, les parasites campistes. Alors, on va parler maintenant des moyens et des systèmes qui permettraient de développer l'économie numérique. Hier, dans une interview exclusive pour Jour 8, Francis Adolphe a annoncé le développement d'un certain nombre d'outils. Je pense notamment à une pépinière. Je pense aussi à la gare des entreprises, à un certain nombre de choses comme ça qui sont vraiment orientées autour de l'économie numérique. Je dirais, vous, à la fois en tant que chef d'entreprise, directeur d'école, qu'est-ce que vous imaginez comme, quelles seraient les choses, les moyens qui pourraient être intéressants, importants, pour permettre le développement de l'économie numérique dans le canton avenaissin, encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Christophe ?
Oui, alors déjà, à mon avis, des locaux. Je pense vraiment on a quand même besoin de liens physiques. Donc, moi, je verrais bien un super beau bâtiment porté par Carpentras avec des bureaux pour toutes les entreprises. Après, le projet de la gare des entrepreneurs, où c'est un Fab Lab, en fait, je crois savoir.
C'est ça.
Donc, effectivement, alors moi, j'arrive trop tard, mais pour ceux qui vont arriver derrière, c'est hyper pertinent parce qu'on va pouvoir tester des produits, les faire imprimer, les faire usiner.
Voilà, parce que qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab concrètement ?
Un Fab Lab, finalement, c'est un endroit qui va regrouper plusieurs experts et plusieurs machines aussi, par exemple des imprimantes 3D, des machines à usiner, des machines, probablement des ordinateurs, des machines graphiques, et des gens qui ont aussi les compétences pour les faire tourner, si vous ne les avez pas forcément. Du coup, vous arrivez avec votre projet et puis vous allez pouvoir le mettre en musique directement avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ou utiliser le matériel si vous le maîtrisez. Moi, je pense qu'une imprimante 3D en libre service à Carpentras, ça serait génial. Ça éviterait aux entreprises de l'acheter. On pourrait mutualiser. On va sur des sommes qui grimpent vite. Hein. Une bonne imprimante 3D, ça peut monter à 150 000 euros, voire plus. Donc c'est pas évident que la petite entreprise de Carpentras se paye ça. En mutualisant sur un Fab Lab, ça devient très très pertinent. Quoi.
Est-ce que le développement de la fibre est suffisamment rapide? Parce qu'on a l'impression que on en parle beaucoup, mais en fait, pour l'instant, on a un peu du mal à la voir arriver, notamment dans les entreprises, même si en principe, les zones d'activité ont dû être câblées en premier. La fibre, c'est un enjeu majeur quand même pour l'économie numérique.
Alors, c'est un enjeu majeur, mais pas forcément pour toutes les entreprises. Si on prend le cas de Silica, moi, j'ai pas besoin de débit énorme, j'héberge pas de données. Une entreprise qui, par contre, va diffuser du contenu, je pense à un journal, par exemple, un web media, ou des entreprises qui ont des données clients, des datasets, qui ont besoin de stocker de la donnée et de la diffuser. Editium, par exemple, Cédric Ruir, s'il a besoin de stocker des données de la GED, lui, il a besoin effectivement d'avoir du débit. Donc oui, c'est important, tout dépend du type d'entreprise. Et après, l'avantage quand même d'avoir des réseaux au débit, c'est qu'on peut interconnecter les entreprises entre elles. Donc là, on peut aussi rajouter du service, etc., du stockage. Donc, oui, rapprocher finalement les entreprises, parce que pour faire de la visioconférence, par exemple, on a besoin de débit. Donc forcément, si la fibre est proposée à des prix sympas, ça va accélérer tout ça.
Gilles Francescano, alors vous êtes déjà une des preuves du soutien manifeste de la ville de Carpentras sur l'économie numérique, puisque vous êtes accueilli dans les locaux de la Maison du Citoyen. Qu'est-ce qui serait les pistes possibles de développement selon vous pour l'économie numérique et notamment l'économie numérique créative?
Bah écoutez, comme disait Christophe, effectivement, les locaux, ça, il n'y a aucun problème, effectivement, je suis à 100% d'accord avec lui. La mutualisation, effectivement, de moyens comme imprimante 3D, par exemple, effectivement. Après, nous, sur l'aspect créatif, il y a, je pense, peut-être que je suis un peu naïf là-dessus, mais pourquoi pas, parce que, comme disait Christophe tout à l'heure, la seule limite, elle est dans notre tête, hein, donc tout est possible. S'il y a vraiment une forte volonté, on ne sait pas quel sera le profil du territoire quand nos étudiants vont sortir dans 3 ans. Il y a effectivement les projets, mais à l'heure du numérique aujourd'hui, on sait très bien qu'il suffit d'une seule entreprise pour booster tout un secteur en quelques mois. Oui. Donc dans 3 ans, on ne sait pas, à l'heure où arrive la réalité virtuelle, les choses comme ça. Donc je ne sais pas encore exactement dans quel type de secteur vont s'orienter nos étudiants et localement encore moins. Donc effectivement, c'est très intéressant de voir qu'effectivement il y a des efforts faits sur la gare, sur les Fab Labs, sur une volonté politique. Après, il y a quelque chose qui pourrait être aussi intéressant, c'est que le coût de la vie étant quand même un petit peu moins important ici que dans les grandes capitales, moi le pari fou de l'école, en fait, c'est de me dire qu'il y a il y a toute probabilité de réussir à Carpentras ce qui a été fait à Angoulême, par exemple, autour de la bande dessinée,
oui,
ou ce qui a été fait à Valenciennes autour des studios comme Ankama, par exemple, avec Supinfocom, des choses comme ça.
Tout à fait.
C'est des coins qui personne n'aurait parié une cacahuète là-dessus. Et 20 ans après, on sait que ce sont des plateformes incontournables au niveau mondial dans leur secteur. En fait.
Ouais,
et pourquoi pas le numérique dans le Vaucluse avec ce point d'ancrage à Carpentras autour de l'école, pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'il y a des cinéastes, par exemple, ou des acteurs du jeu vidéo,
oui.
Qui ont forcément des coûts exorbitants pour tourner un teaser, pour monter une pré-production, des choses comme ça. Donc si on a un lieu, par exemple, avec des écrans, des fonds verts pour avoir une possibilité d'avoir un studio de capture motion, par exemple, disponible, je sais pertinemment que moi, il y aura beaucoup de mes amis qui viendront tourner ici, par
Bien
exemple.
Bien sûr, absolument.
Donc, ça, c'est des choses qui pourraient être développées.
Très bien. Bien, écoutez, messieurs, merci pour cette table ronde. On va faire un petit enchaînement déjà sur la table ronde de demain, puisque Christophe Ferrando abordait lors de sa création le sujet des réseaux et des soutiens de la création d'entreprises avec Initiative Ventoux et avec le RIL. Demain, ce sera un sujet, donc une table ronde sur les réseaux d'entrepreneurs sur le Comtat et sur le Vaucluse avec, je dirais, les plus classiques comme le RIL, Carpent Sud, Initiative Ventoux et d'autres qui seront donc présents demain à 11h. Pierre, tu as encore une dernière chose à rajouter?
Oui, je voulais vous signaler qu'il y aurait trois journées portes ouvertes pour l'ESA Games, une le 21 janvier, une autre le 25 mars et une autre le 10 juin. C'est des choses à voir absolument. On a assisté aux deux journées portes ouvertes l'année dernière. Alors là, à mon avis, cette année, avec les premières productions des élèves, on va en prendre plein les yeux.
Absolument. Passez une bonne journée et à demain.
Merci à vous.